20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Deux anges et des marionnettes évoluant dans un décor reproduisant le Berlin des années 80. Nous découvrirons ce soir l'opéra Les ailes du désir, inspiré du célèbre film si contemplatif de Wim Wenders, avec son compositeur Othmane Loiti et son interprète principale, la soprano Marie-Laure Garnier. Un opéra créé tout récemment à découvrir en ce mois de janvier à Dijon, Besançon et Compiègne. Et puis Thierry Ilerito du Figaro nous rejoindra comme tous les mardis pour nous dresser le portrait du ténor Amitai Paty. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. La prochaine édition du grand concours de chant lyrique Opéralia, remportée cette année, c'était en Afrique du Sud, par la soprano française Julie Rosé, se tiendra, on vient de l'apprendre, cette année en Inde, à Bombay. Les finalistes concourront ainsi du 15 jusqu'au 21 septembre prochain. Ce sera la 31e édition de ce concours, devenu un formidable tremplin pour la carrière de jeunes espoirs de la scène lyrique. Philippe Co vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. L'Orchestre National de Lille retrouve cette semaine son chef fondateur, Jean-Claude Casadesus. Il dirigera ainsi ses musiciens mercredi et jeudi soir à l'Auditorium du Nouveau Siècle, dans un programme associant Beethoven, Dutilleux et Ravel, avec le pianiste Barry Douglas qui sera le soliste du 3e concerto de Beethoven. Suite de notre visite des coulisses de l'Opéra National de Paris à la découverte des différents métiers d'art de l'institution lyrique, une visite commencée hier dans les ateliers de tapisserie et qui se poursuit aujourd'hui dans un lieu où sont construites les structures sur lesquelles viennent ensuite se greffer les toiles et autres éléments de décoration. Nous retrouvons notre guide de cette semaine, Alexandre Gaillard, le responsable des ateliers de décor de l'Opéra de Paris.
Ici, nous nous trouvons dans la théorie des ateliers de décor, l'endroit où l'on construit toutes les squelettes des décors que l'on va avoir sur la scène. Et donc, on réalise principalement en acier, de temps en temps de l'aluminium. Alors, c'est un des matériaux que nous cherchons à réduire au maximum. Ici, nous avons des éléments en fait, qui sont réalisés en découpe plasma. Et donc là, vous avez des découpes qui vont servir dans Béatrice d'Itenda. Donc dans Béatrice d'Itenda, vous aurez des bosquets avec des buis, des boules de buis ou des ifs qui seront réalisés à partir de squelettes en acier sur lesquels les sculpteurs vont venir ajouter des éléments en mousse. On a un décor sur lequel le scénographe voulait avoir des fleurs et on était incapable de tenir les éléments fleuris dans l'espace. Et en fait, on lui a proposé d'insérer ces éléments fleuris dans des tôles avec des découpes hexagonales. On arrive à un résultat final qui est vraiment pas mal. L'environnement de Béatrice d'Itenda, c'est un palais, donc il y a un jardin royal. Donc on a tout un tas de bosquets et qui seront soit éclairés par l'extérieur, soit depuis l'intérieur. On aura de l'éclairage à l'intérieur qui mettra en lumière en fait toute l'architecture et l'aspect floral des éléments. Et donc pour parvenir à réaliser toutes ces insertions de végétation, en fait, on a proposé au scénographe de passer par une découpe laser, de manière à pouvoir insérer en fait ces éléments floraux dans une structure qui soit utilisable par les choristes, mais sans se blesser. On a quelques éléments, vous voyez, des éléments qui pouvaient être contendants avant, mais ils sont tous insérés dans une plaque et on évite totalement le risque de blessure.
De Beatrice d'Itenda de Bellini, un opéra qui fera l'objet d'une toute nouvelle production dont on sait déjà qu'elle sera particulièrement fleurie visuellement. Une production à découvrir du 9 février au 7 mars avec les frères Penet et Amitai Paty dans la distribution notamment.
L'Or Maison sur Radio Classique.
C'est la nouvelle production de la coopérative qui fédère différentes scènes françaises et permet ainsi chaque saison de faire tourner un spectacle lyrique à travers la France. Pour la première fois, la coopérative a choisi de présenter une création et a ainsi commandé un opéra au jeune compositeur Othman Louati, un opéra s'inspirant du film Les ailes du désir de Wim Wenders. Créé en novembre dernier à Dunkerque, il sera présenté mercredi et jeudi à l'opéra de Dijon, les 17 et 18 janvier au théâtre Le Doux de Besançon, puis le 25 à Compiègne. Alors Othman Louati, que je suis allée rencontrer à Dunkerque juste avant la création de son œuvre, s'est confié sur sa démarche par rapport au film de Wim Wenders.
Ce qui est important de dire déjà, c'est qu'on y a rêvé collectivement, c'est-à-dire avec Joanny qui a d'abord imaginé la chose, avec la librettiste Gwendoline Soublin qui a fait un travail merveilleux pour adapter le scénario de Wim Wenders et de Peter Hanke pour le livret tout simplement, et puis aussi avec la costumière Petroni Salomé et la dramaturge Olivia Burton. Enfin, c'est vraiment un travail d'équipe pour savoir comment on replace Berlin, l'histoire de la Shoah, l'histoire d'un ange qui décide de chuter par amour. Et par là aussi, l'évolution d'un monde qui voit le cirque s'effondrer, le rock à devenir, donc il y a énormément de choses. Et on a décidé de garder une forme, disons assez traditionnelle, par tableau, où il y a vraiment des atmosphères très différentes qui se succèdent, et avec une contemplation, c'est la chose peut-être la plus importante qu'on a gardée du film, c'est la contemplation angélique des deux anges qui écoutent les pensées intérieures des humains. Pour moi, on ne pouvait pas passer outre, il fallait absolument révéler l'existence humaine par la présence de deux anges, qui, en fait, vont se pencher sur les histoires du quotidien, aussi sur la grande histoire, sur l'histoire de la Shoah, par exemple, pour découvrir un espèce de puzzle, comme des poupées russes, en fait, d'un Berlin qui est en train d'évoluer, qui est encore avant la chute du mur, qui s'apprête à rugir, et comme, en fait, le cri d'amour de Marie-Laure, qui, en fait, découvre l'existence humaine, en même temps qu'elle découvre un Berlin qui est encore écorché vif, en fait.
Votre opéra Les ailes du désir, Othman Louati, met donc en scène deux anges. Comment musicalement traduire justement ce côté onirique? Comment mettre en musique des anges?
C'est l'une des grandes questions que je me suis posée. Évidemment, on a la tentation de la tradition européenne d'utiliser des voix d'hommes qui sont considérés comme purs, notamment dans toute l'esthétique qui est née à l'opéra ou même qui est née dans les cantates, etc. Donc je pense au haut-contre, au contre-ténor, etc. Et j'ai pris le contre-pied. J'ai décidé d'utiliser les voix que je voulais absolument avoir sur le plateau, et notamment celle de Marie-Laure, celle de Romain Daillé, qui sont des voix très lyriques, qui sont capables aussi de chanter l'intime. Mais en fait, je voulais, comment dire, que la contemplation angélique, ce soit un cri, et que plutôt que l'aspect des créatures, elles soient léguées aux êtres humains, en fait. On croise différents rôles qui sont très caractérisés. Il y a un aimant qui va très mal et qui est dans une espèce de plainte mélancolique de bout en bout. Il y a la musique de cirque qui est aussi très caractérisée. Il y a une femme dépressive qui a peur de perdre son enfant. Et il y a aussi le rock qui rugit à la fin.
Donc il y a des influences différentes. Vous puisez également dans la musique ancienne. Il y a une petite dose d'électro aussi.
La question, c'était comment reprendre le concert de Nick Cave qui est dans le film de Wim Wenders. Moi, j'ai beaucoup hésité à remettre du rock parce que je suis moi-même un grand fan de rock, mais ça me paraissait impossible de répondre à la puissance de Nick Cave. Donc j'ai décidé de faire un pas de côté, de garder une forme de pop, mais qui est assez expérimentale, qui disons plutôt psychédélique. Pour ceux qui écoutent beaucoup de musique néo-folk, il y a un groupe que j'adore dont la chanteuse est disparue il y a 2 ans, qui s'appelle Groupe Low, qui est un groupe des années 90-2000 indépendant. Et c'est les voix un peu comme j'ai essayé de reprendre dans la boîte de nuit de nos ailes opératiques. Un chant très doux, très profond, qui en fait nous fait du bien. Il y a une dimension hédoniste dans cette boîte de nuit. C'est pas la révolte du rock, mais c'est plutôt l'ange qui découvre le monde, qui découvre les corps en mouvement, qui découvre une grande douceur.
Il y a beaucoup d'amour dans cette œuvre. Est-ce que justement, en ces temps troublés, difficiles, douloureux, où la haine se déchaîne, cette œuvre pourrait être une sorte d'antidote à la haine ?
En fait, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que dans le film, il n'y a pas d'obstacle qui vient directement se poser à la chute de l'ange. Bruno Ganz tombe amoureux de la trapéziste et il décide de s'incarner et tout va bien. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est parce que j'ai une conception assez romantique de l'opéra. Je voulais qu'il y ait un obstacle qui soit dit par la musique et non pas par le livret, c'est-à-dire que d'une certaine manière, la musique de Cassiel, donc l'ange qui reste, est complètement amoureuse de Damiel, de l'ange qui s'incarne. Donc j'ai essayé de faire en sorte qu'on ressente que c'est terrible, en fait, cet abandon. Il y a un peu cet antagonisme d'un ange qui a le cœur brisé, mais aussi dans le film de Wim Wenders, disons que le drame, il est contenu dans l'environnement, il est contenu dans le mur, il est contenu dans la mémoire du vieux rescapé qui a survécu au camp, et aussi dans un cirque qui sent bien que c'est la fin d'un monde.
Alors c'est votre premier opéra, Othman Loati. Vous avez beaucoup travaillé, entre autres, hein, sur des opéras plus anciens que vous avez remaniés, recréés, auxquels vous avez donné des éclairages nouveaux. Qu'est-ce que cette première expérience d'un opéra vous a apporté en tant que créateur ?
Disons, à trouver un geste vocal qui soit très expressionniste. J'ai l'impression, bien sûr, que je suis encore beaucoup en recherche et j'espère que ma plume va continuer à évoluer, disons, jusqu'à mes vieux jours. Mais j'ai l'impression d'avoir saisi un cri, en fait, dans ma plume qui vient de, je sais pas, peut-être, on me dit beaucoup que ma musique ressemble à Debussy. Quand on me dit ça, il y a bien sûr une résonance, parce que c'est mon compositeur de cœur depuis que je suis gamin, mais je dirais que c'est plutôt ma musique instrumentale qui lui doit beaucoup, comme d'ailleurs la plupart des compositrices et compositeurs français. Mais en fait, il y a aussi quelque chose de Webern, de Berg et de Richard Strauss, en fait, dans ces lignes-là, et qu'on retrouve parfois chez Messiaen, c'est-à-dire un cri, j'arrive pas à le dire autrement, en fait, quelque chose qui vient rugir sur scène, parce que j'aime profondément la voix lyrique et que c'est très important pour moi qu'elle continue malgré tout à... Je veux dire, la voix lyrique, elle est stigmatisée d'une certaine manière, en fait. Comme si ça faisait partie d'un vieux monde. Et je pense qu'elle a encore beaucoup de choses à raconter. Je pense que la voix lyrique a encore ce pouvoir d'émouvoir un je ne sais quoi en chacun, ouais.
Et cet opéra, Les Ailes du Désir, votre opéra, Othman Loati, il est créé ici à Dunkerque, au Bateau-Feu. Il sera donné dans plusieurs salles. Il y aura 16 représentations au total. Des salles qui ne sont pas forcément, dont le public n'est pas forcément rompu à l'opéra, puisqu'elle programme peu d'opéras. Donc un public qui est sans doute constitué d'un grand nombre de néophytes, de gens qui n'ont pas forcément l'habitude de l'opéra. Est-ce que c'est particulièrement stimulant aussi d'écrire pour ce public-là, ou est-ce que c'est plus difficile ?
Disons que c'est très important. J'ai grandi à Tourcoing, dans une famille qui était certes ouverte à la culture, mais mon premier opéra, c'était Les Noces de Figaro, à l'atelier lyrique de Tourcoing, quand j'avais 19 ans. Et avant, j'avais jamais vu d'opéra. Et c'est très important pour moi d'essayer d'avoir une musique qui cherche un inouï, je le dis souvent, mais aussi qui a plusieurs niveaux de lecture. C'est-à-dire que l'œuvre, pour moi, elle doit séduire dans un premier temps. Elle doit parler au cœur. Ce qui est vraiment fondamental pour moi, c'est que la musique d'aujourd'hui, ce soit une musique qui puisse plaire à un grand public. Et il y a cette phrase d'une metteuse en scène que j'aime beaucoup, qui s'appelle Tiffaine Raffier. J'ai fait la musique dans un de ses derniers spectacles, qui a tourné à l'Odéon notamment, qui s'appelle La réponse des hommes. Et elle dit souvent, moi je fais des spectacles pour ma mère, qui va jamais au théâtre. Et moi c'est un peu la même chose, je fais des spectacles pour mes grands-parents, qui ont une culture, bien sûr, mais qui n'est pas forcément celle des grands bourgeois parisiens. Et c'est très important pour moi de garder un peu cette filiation en moi.
Mon cœur,
Nouvel extrait, ici la rencontre amoureuse dans la boîte de nuit. Nouvel extrait de l'opéra Les ailes du désir d'Otman Louati. Une production particulièrement onirique, mêlant chanteur et marionnette, dirigée par Fiona Mombé à la tête de l'ensemble Miroirs étendus, avec parmi les interprètes Marie-Laure Garnier et Romain Daïez, qui incarne ici les deux anges. Marie-Laure Garnier, qui connaît bien l'univers d'Otman Louati pour avoir déjà collaboré avec le compositeur. Marie-Laure Garnier qui se sent particulièrement à l'aise dans ce rôle écrit pour elle, comme elle me l'a confié.
J'avais une familiarité avec son langage. Je lui ai dit, c'est fou, j'ai l'impression que tu as écrit pour moi. J'ai une voix assez ample, avec un ambitus qui est assez long. Et justement, il a vraiment profité de ses possibilités pour écrire une écriture sur mesure, avec énormément de lyrisme, mais en même temps des choses très fines que j'apprécie, notamment parce que je suis une amoureuse de la mélodie, une amoureuse des mots, et pouvoir dire le mot, prendre le soin de chaque mot, c'est hyper réjouissant dans cette musique.
Et puis vous incarnez un ange. Qu'est-ce que cela fait justement d'être un ange? Et un ange bienveillant, hein?
Absolument, un ange qui voit le monde par le prisme de la beauté, un ange qui voit la beauté des humains, qui s'émerveille de cette humanité, un ange aussi qui a un désir profond de s'incarner, qui a envie d'embrasser l'humanité, de ressentir les émotions, de trouver une corporalité, justement. Ça se ressent aussi beaucoup dans la vocalité, avec cet ambitus, là, on sent vraiment que Damiel, elle est entre ciel et terre, dans la terre avec ses graves mirifiques, et dans ce ciel par des aigus angélique, pour le coup. C'est assez passionnant, et en même temps, c'est vrai que de temps en temps, on est un petit peu déstabilisé parce qu'on recherche une couleur, et pour le coup, il faut passer par le corps pour l'obtenir. On ne peut pas mettre en miroir le son que l'on veut obtenir et la sensation du corps. Il faut vraiment être dans un corps très ancré.
Donc c'est très physique.
C'est très physique. C'est un dépassement de soi, c'est une expérience du chant, c'est une expérience du son, c'est une expérience du corps. Parfois, c'est difficile. Et une fois qu'on a dépassé cette difficulté, on est hyper heureux. Otman, il a une écriture extrêmement précise. C'est passionnant, finalement, de travailler cette œuvre avec lui, parce qu'on grandit humainement, parce que c'est une production humainement très riche, avec des chanteurs merveilleux, Romain Daïez, Camille Merckx, Mathilde Orchild, Ronan Nedelec, qui est absolument fabuleux, Benoît Rameau, et puis des marionnettistes. La marionnette, moi j'avoue que j'avais jamais travaillé avec des marionnettistes, et j'étais fascinée par leur travail de patience, de répétition, c'est quelque chose que je connais plutôt bien ça, mais de le voir, leur résilience à tenir des positions très longtemps, à se mettre par terre, à cavaler, etc., c'est très, très inspirant.
Les personnages de marionnettes, ce sont les humains dans cette production?
Absolument. Ce sont les humains dont on entend les pensées grâce aux chanteurs. En réalité, on entend les pensées des humains, et en même temps, c'est comme si on voulait que le spectateur entendre quelque chose ou voit quelque chose au travers du regard des anges. Si bien qu'on a ce contraste entre l'ange Cassiel, qui lui voit la douleur, la souffrance de l'humanité, et l'ange Damiel qui, à contrario, va vraiment voir tout ce qui est beau. Voilà, donc ces marionnettes, elles sont d'une grande poésie, d'une grande profondeur. Moi, je suis très touchée en étant moi-même sur le spectacle, donc je n'ose pas imaginer l'expérience sensorielle et émotionnelle du spectateur.
Et puis votre ange, Marie-Laure Garnier, il tombe amoureux d'un humain, il tombe donc amoureux d'une marionnette.
Absolument, et c'est très très beau parce que vraiment à son contact, c'est l'élément déclencheur pour affirmer qu'elle veut s'incarner, qu'elle veut descendre sur terre, et qu'elle désire avoir un corps, pouvoir le toucher, pouvoir en définir les contours, pouvoir sentir, voilà, c'est tous ces détails qui sont mentionnés dans le livret, et moi je trouve ça vraiment très beau, et en tant que chanteuse, c'est hyper important finalement cette sensation du corps que l'on travaille au quotidien, au fil des années, qui évolue sans cesse, et là, de pouvoir décortiquer un peu cette sensation de l'incarnation. C'est très intéressant. Je suis très heureuse de tout ce cheminement.
Alors, cette opéra, elle s'inspire d'un célèbre film de Wim Wenders. Vous reprenez le rôle de Bruno Ganz, un rôle d'homme. Est-ce que vous avez des images de ce film? Est-ce que vous y pensez ou est-ce que vous en faites abstraction?
Je dirais que de temps en temps, j'y reviens et de temps en temps, je fais abstraction. Je l'ai vu, ça a été pour moi assez difficile de le regarder d'une traite. C'est une esthétique très particulière. Et puis, aussitôt que j'ai commencé à travailler la partition en lisant le livret, en travaillant la musique, je suis revenue au film et tout d'un coup, ça m'est apparu comme beaucoup plus évident. Et finalement, le théâtre redonne accès au film pour moi. Et en même temps, le film reste en appui parce qu'en fait, on a un traitement très cinématographique au travers du théâtre. Il y a une esthétique extrêmement recherchée, extrêmement pointue. Et donc, du coup, je pense que les deux se nourrissent, quand bien même, moi, en tant que Damiel, je ne m'appuie pas du tout sur le film. J'ai vraiment à cœur de trouver la version qui correspond à mon corps, à ma voix, à mon identité aussi.
Marie-Laure Garnier interprète de l'ange Damiel qui découvre ici le monde et chante l'extase et la sidération devant le spectacle du quotidien dans cet opéra Les ailes du désir d'Otman Louati, à découvrir donc mercredi et jeudi à Dijon, les 17 et 18 janvier à Besançon, le 25 à Compiègne et puis au printemps à Nantes, Reims et Tourcoing grâce au formidable réseau de la coopérative. Avec donc Marie-Laure Garnier dans l'un des rôles principaux, une chanteuse que je vous propose d'écouter de nouveau ce soir sur Radio Classique dans un enregistrement réalisé justement avec l'ensemble Miroirs étendus et Fiona Mombé, l'un des Wesendonck-Lieder de Richard Wagner, arrangé par Otman Louati.
Erreicht mir früher.
L'un des Wesendonck leaders de Wagner dans un arrangement d'Othmane Loiti avec Marie-Laure Garnier et les Miroirs étendus sous la direction de Fiona Mombé.
Nouvelle génération de Thierry Hilériteau avec le Figaro.
Bonsoir Thierry.
Bonsoir Laure.
Alors ce soir, un cadet qui n'est pas de Gascogne, mais un peu plus loin.
Bravo Laure. En effet, à peine plus loin, chère Laure, quelques 20 000 kilomètres environ, une bagatelle.
Oui.
C'est en effet de la lointaine banlieue d'Auckland, sur l'île nord de Nouvelle-Zélande, que nous vient le ténor samoan dont nous allons parler ce soir. Mais non, il ne s'agit pas de Penny Patty, mais bien de son petit frère, Amitai. Dans la famille Patty, on demande donc le cadet, dernier né d'une fratrie de 4 enfants et pas des moindres, puisqu'à 33 ans, Amitai marche déjà sur les pas de son grand frère. Certes, malgré des débuts juste avant le Covid à la Philharmonie de Paris, c'était dans les Pêcheurs de Perles en version de concert. On le connaît moins en France que Péné, fort lui de nombreux triomphes ces dernières années, que ce soit à l'Opéra de Paris, à l'Opéra Comique, au Théâtre des Champs-Élysées ou encore au Festival d'Aix-en-Provence. Mais Amitai bénéficie déjà outre-Atlantique d'une solide réputation et ne devrait donc pas tarder à rejoindre son frère au panthéon des voix les plus appréciées en Europe. Les deux ténors qui partagent désormais un appartement à Paris sont d'ailleurs appelés à se produire de plus en plus régulièrement ensemble, comme ils l'ont fait hier, c'était au Théâtre des Champs-Élysées, et comme ils s'apprêtent surtout à le faire à l'Opéra Bastille, où ils seront réunis dans la nouvelle production très fleurie du rarissime Beatrice di Tenda de Bellini, mise en scène par Peter Sellars.
Et oui, comme on l'a appris tout à l'heure, avec plein de fleurs sur scène. Alors ce n'est d'ailleurs pas la toute première fois que les deux frères partagent l'affiche d'un opéra mise en scène.
Non, c'est vrai, la dernière fois c'était il y a 6 ans, c'était pour Rigoletto à l'Opéra de San Francisco. Opéra de San Francisco, où lui et Péné étaient en résidence dans le cadre du programme d'accompagnement des jeunes chanteurs Adler. Une expérience qu'Amitai chérit tout particulièrement. Il l'avoue, être le dernier d'une fratrie aussi soudée, savoir que l'on peut toujours compter sur ses aînés, rend les choses beaucoup plus confortables. Il faut dire que dans la famille Patty, eh bien prendre soin, c'est une seconde nature. Ses deux parents étaient infirmiers en maison de retraite et il le reconnaît, ses sœurs aînées comme son grand frère, Péné, se sont toujours beaucoup occupé de lui, y compris en matière de chant. C'est d'ailleurs pour l'aider à payer une partie de ses études de chant à Cardiff que son frère Péné et leur cousin Moses ont eu l'idée de créer ce fameux trio vocal Sole Three Mio, avec lequel ils ont tourné pendant de nombreuses années. Et c'est encore par solidarité pour lui que Péné accepta de différer son entrée dans le programme Adler de l'Opéra de San Francisco.
Car tiré dans la culture des Samoa, le chant comme la solidarité sont comme une seconde nature.
Eh bien oui, pour ces habitants du Pacifique, le chant n'est qu'une manière de raconter et de transmettre les histoires, des histoires d'entraide et de partage. Leur père avait d'ailleurs l'habitude d'aller lui aussi chanter tous les dimanches dans la maison de retraite où il travaillait et d'y amener ses enfants.
Et c'est aussi ses parents qui lui ont donné à Amitai ce goût du défi nécessaire à une carrière de soliste.
Oui, des parents qui ont toujours encouragé leurs enfants, les ont toujours poussés à se dépasser. C'est dans le cœur du lycée qu'Amitai, comme son frère Péné d'ailleurs, assumera ses premiers solos et découvrira le répertoire classique. C'est aussi là qu'il fera, figurez-vous, la connaissance de celle qui partage désormais sa vie, la soprano néo-zélandaise Isabelle Amour. Inspirée par la réussite de son frère aîné, la victoire de ce dernier à plusieurs compétitions, et bien celui qui se rêvait médecin finit par embrasser à son tour l'ambition d'une carrière lyrique. Après une année sabbatique, 2 années de chant à l'université d'Auckland, le voilà donc sur les traces de son frère à Cardiff, au pays de Galles, où il intègre l'Académie internationale de chant du Pays de Galles. Et enfin, en 2017, il rejoint un an seulement après son frère le programme Adler de l'Opéra de San Francisco. Ce sera le début d'une carrière internationale qui ne semble pas prête de s'arrêter, cher Laure.
Disse vivere io voglio a te fedele e l'universo in me. Io vivo quasi in cielo. Da lì che disse vivere io voglio a te fedele. Ah sì, l'universo in amore, io vivo quasi in cielo, io vivo in cielo.
un air d'Alfredo dans la Traviata de Giuseppe Verdi, chanté par Amitai Patti. Dans cette production dirigée par Michele Spotti, c'était au Théâtre du Capitole de Toulouse, capté par les micros de Radio Classique au printemps dernier. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait d'Amitai Patti.
Merci à vous Charlotte.
Et à la semaine prochaine, merci à Bertrand Dorini pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons avec des musiciens du Quatuor Modigliani, la moitié du Quatuor Modigliani, pour parler de leur nouvel enregistrement et de la Biennale de Quatuor à cordes qui débute à la Philharmonie de Paris. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.